Eh bien, mes amis, nous sommes heureux de poursuivre notre thème « Connais-toi toi-même à la lumière » du livre de Job. Et j'ai l'impression que nous allons faire encore bien des expériences d'ici la fin de la semaine. Et je dis cela après avoir vécu avec vous la soirée d'hier qui m'a paru très significative. Quelqu'un avait dit quelque chose qui était très juste, une petite contestation, il a eu tout de suite 12 amis de Job. Il n'y en avait pas 3, mais il y en a 12 qui voulaient lui expliquer, qui voulaient absolument le convaincre. Misère à poil encore. C'est très drôle, hein, immédiatement. Vous ne pouvez pas attendre que la nuit porte conseil, et puis que chacun y pense, voit ce que le Seigneur avait à nous dire. Bien sûr, j'avais donné un coup de bistouri un peu fort, exprès, parce que il y avait quelque chose qui devait être compris, débridé, mais ça m'a bien frappé quand même, comme le Seigneur nous permettait de vivre ensemble le livre de Job lui-même ici, à Mahanaïm, 1988. Alors, une fois de plus, nous voulons relire ces versets de Romains 11. Vous savez, c'est pas en vain que nous faisons cela. Je me souviens, en Israël, je traite un tout autre sujet, mais qui était aussi un de ces sujets incompréhensibles, et c'était justement au sujet de la voix de Dieu à l'égard d'Israël, le pourquoi des souffrances de ce peuple. Et on ne peut pas comprendre, il semble que Dieu l'a rejeté, et pourtant, il ne l'a pas rejeté, il l'a mis seulement à l'écart, mais il va reprendre ses relations avec ce peuple. Mais comprendre les voies de Dieu, prétendre qu'on les comprend, ce n'est pas vrai. Mais alors, même si on ne comprend pas, on ne doit pas se révolter. On doit attendre que le Seigneur nous donne la lumière, et on doit se prosterner et adorer. Alors, nous récitons ce texte « Aux profondeurs de la richesse ». Que ces jugements ? Tout est de lui. Et mettez bien tout dans le tout. Tout est par lui. Et mettez bien tout dans le tout. Et puis, oui. Il ne veut pas comprendre. Vous avez bien saisi ce que je veux dire, que nous devons mettre tout dans le tout. Tout est pour lui. En définitive, le diable n'aura rien. Tout est pour lui. Alors, vous pouvez déjà dire, nous sommes plus que vainqueurs. Ou, comme le disait le vieux papa Nicole, père de Jules Marcel Nicole, un de nos chers amis, nous sommes survainqueurs, disait cet aveugle, arrivé à l'âge de 94 ans et aveugle depuis l'âge de 35 ans. Il était tombé aveugle à Berlin et il a servi le Seigneur en étant aveugle avec un rayonnement extraordinaire. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Nous voici donc réconciliés avec tout ce qui peut nous arriver et restons dans l'adoration, dans la louange, en toutes circonstances. C'est le psalmiste, psaume 34, qui nous le dit. La louange sera continuellement sur mes lèvres. Mais continuellement sur mes lèvres, parce que dans mon cœur n'est plus à moi, mon cœur est au Seigneur. Mon fils, donne-moi ton cœur, nous a dit un jour le Seigneur. Et nous avons reçu la grâce pour accepter sa demande. Et nous lui avons répondu. Dieu notre Père, nous voulons te demander que tu continues ton œuvre en chacun de nous aujourd'hui et que réellement nous puissions être tout à fait à découvert devant toi, puisque tu nous l'as dit ce matin, que tu connais nos pensées, tu sais quand nous sommes assis, quand nous sommes debout, tu es au fait de toutes nos voix, où que nous nous trouvions, et malgré les sentiments de solitude que nous pouvons éprouver, tu es là. Et ce qui est important, ce n'est pas que nous, nous te voyons, mais que nous sachions que tu nous vois. Même si nous sommes dans la nuit, dans les ténèbres, toi tu nous vois. Et c'est cela qui nous rassure. Il y a des jours où nous ne voyons pas le soleil, mais le soleil brille encore. Au-dessus des nuages, le ciel est resté bleu. Ce n'est pas parce que nous, nous ne voyons pas le soleil n'existe pas. Ô Dieu, tu nous as donné si souvent cette leçon dans nos voyages en avion, quand nous partons dans la crasse, et puis qu'au bout d'un certain temps, l'avion sort des nuages, et tout est bleu, tout est resplendissant. Ô notre Dieu, donne-nous de nous laisser enseigner de toute manière, par le grand livre de la création, par tes œuvres qui te célèbrent, et donne-nous aussi d'être comme des petits-enfants qui s'étonnent encore, qui s'émerveillent, qui font des découvertes. Donne-nous cet esprit ouvert ce matin, et que ta grâce nous illumine en Jésus. Amen. Eh bien oui, mes amis, aujourd'hui, nous avons donc à considérer les chapitres 23 et 24 de Job qui contiennent la réponse ou la réplique qu'il fait au troisième discours d'Éliphaz, et lui c'est son septième discours que nous avons. Je vous ai demandé de lire ces 42 versets, mais je reviens un peu sur ce que nous avons vu hier soir selon la méthode que nous avons employée dans le camp précédent. Nous avons donc commencé hier soir l'étude de la deuxième partie du livre de Job, qui contient lui aussi, comme nous l'avons dit, des souterrains, des oubliettes, si nous continuons de voir ce livre se dresser comme un donjon au centre même de la Bible. Les obscurités de ces chapitres, et il y a des obscurités, sont dus soit à des manipulations subies par le texte original, de copie en copie. Vous savez que de ce temps-là, n'est-ce pas, c'était des hommes, des scribes, qui copiaient le texte sur une autre copie. Donc ils faisaient une copie et ça se continuait ainsi puisqu'il n'y avait pas l'imprimerie. Et alors, il y avait quelquefois des erreurs de copistes, puis on marquait dans la marge quelque chose quand on avait découvert cela. Mais ceux qui ont traduit après ont eu quelquefois des difficultés et des hésitations. C'est pourquoi dans les versions que vous avez, il y a des expressions peut-être différentes ou certaines pensées qui n'ont pas l'air de correspondre. Et il faut vraiment l'Esprit de Dieu pour trouver ce qui paraît le plus juste, la pensée originelle du Seigneur. Mais ça peut aussi venir de simples erreurs de transcription. Enfin, de toute façon, nous devons comprendre aussi que la douleur n'est pas une école de logique. Quand on veut faire un plan du livre de Job, puis qu'on veut y trouver des thèmes, on risque de se tromper. Et c'est là que nous soulignons que le livre de Job, ce n'est pas un livre de logique. Parce que le livre de Job, c'est le livre de la douleur humaine, et qu'il serait bien étonnant de n'y trouver aucune contradiction que nous trouvons dans notre propre cœur quand nous sommes dans la douleur. Un moment, eh bien nous la surmontons, puis nous avons de bonnes pensées, et puis dans un autre moment, voilà que nous sommes troublés par toute espèce de doutes, et nous les exprimons. Parce que, souvenez-vous que dans le livre de Job, c'est pas n'importe quelle douleur, mais c'est la douleur portée à son paroxysme. La souffrance mène la raison par des chemins vraiment obscurs, et le livre de Job, il faut bien vous en souvenir, ne ressemble pas du tout au discours de la méthode de Descartes, le philosophe français. Pas du tout. Alors, malgré les obscurités, je crois que tout au long de ces 42 chapitres, nous continuerons d'entendre les échos de la sagesse, et tous ces échos ont une valeur d'éternité pour nous. Voyez-vous, notre société est celle de l'intéressement et du profit, au moins autant que, comme on le dit, une société de consommation. Mais c'est aussi une société de l'intéressement et du profit. Et notre société devrait prêter une attention toute particulière. Au chapitre 19 de Job, qui nous a arrêtés, dans ces versets 23 et 24, Job a exprimé ce désir, « Oh, si mes paroles au moins pouvaient être écrites. Hein? » Pour les générations futures. Il avait donc le désir que ses propos se trouvent dans un livre. Alors qu'il proclamait, malgré la profondeur de sa détresse, sa foi au Dieu vivant. Eh bien, nous aimerions que le monde actuel puisse retrouver cette foi au Dieu vivant qu'avait Job au sein même de la détresse, dans des éclairs de grâce. Eh bien, il proclamait quand même que il croyait encore, il croyait malgré tout, et il disait, mais un jour je contemplerai le Seigneur de mes propres yeux. Et qu'est-ce que Job attendait? Qu'est-ce qu'il désirait tant? Eh bien, c'était de voir la justice manifestée. Si le corps de Job était couvert d'ulcères, on peut dire que son âme, et je le répète, était malade d'amour. Son corps était couvert d'ulcères, mais son âme était atteinte de cette maladie dont parle le Cantique des Cantiques, je suis malade d'amour. Parce que il ne comprend pas, mais il aime encore. Alors il rêvait que son témoignage connaisse un succès semblable à ceux de certains grands de ce monde qui faisaient faire des inscriptions triomphales gravé dans le roc, eux, conquérants, victorieux, on voulait qu'on se souvienne de ce qu'ils avaient fait, et l'on gravait des inscriptions de leur triomphe dans le roc. C'est ce qu'il dit au chapitre 19, versets 23-24. Mais Job a mieux encore à espérer que des lettres sur la pierre. Il dit que son défenseur est vivant, et que c'est lui qui prendra la parole le dernier. Donc il croit quand même que finalement Dieu aura le dernier mot. Alors, dans ce moment-là, où il a eu cet éclair, cette illumination, Job ne doute pas un instant de son acquittement. on le condamne, ses amis qui sont venus pour le consoler, finissent par le condamner pour lui expliquer pourquoi il passe par de si grandes épreuves, c'est que il a péché. Eh bien, lui, il ne doute pas qu'un jour, quand même, Dieu qui est juste et clairvoyant, reviendra, si j'ose m'exprimer ainsi, de cette erreur judiciaire, parce qu'il est en quelque sorte question d'une erreur judiciaire, dont lui, Job, paraît être la victime. Parce que pourquoi est-ce que ça lui est arrivé? Il est droit, il est parfait, il craint Dieu, il se retire du mal, il n'a rien sur la conscience, sa conscience ne lui reproche aucun de ses jours, et puis pourtant, il est mis en accusation, et il passe par des épreuves qui paraissent aux hommes des punitions sévères qui ne s'expliqueraient que par un péché caché. Alors, avec toute la sincérité qui est la sienne, il pense que Dieu se manifestera à cette occasion, donc en parlant le dernier, comme il l'a fait autrefois pour les descendants d'Adam. Il a enlevé Enoch après qu'il eut marché 300 ans avec Dieu, et il connaît l'histoire. Il a préservé Noé alors que le déluge allait anéantir toute chair. Noé et Enoch étaient des hommes parfaits parmi ceux de leur temps, comme lui-même Job était parfait, craignant Dieu, se retirant du mal, mais il y avait eu Enoch, et Dieu était intervenu pour Enoch, il l'avait pris auprès de lui. Et puis Dieu était intervenu pour Noé, et qui a trouvé grâce à ses yeux, mais il est dit que Noé trouva grâce à ses yeux parce qu'il marchait dans la crainte du Seigneur. Et alors, il lui a commandé de faire l'arche, et la foi de Noé s'est manifesté comment? Je serai sauvé. Il a construit son arche. Hein. Il a accompli une œuvre qui était un acte d'obéissance, mais qui allait lui profiter à lui. Tout en obéissant au Seigneur, il allait bénéficier, lui aussi, de son travail. Alors, le Dieu de justice confondra donc au dernier moment tous ceux qui méprisèrent Job à cause de son malheur ou qui voulurent, comme ses amis, l'expliquer en l'accusant d'avoir été, comme nous le disons, un hypocrite, un oppresseur, parce que c'est à cela qu'est arrivé Eliphaz, pour le convaincre, pour mettre le dernier coup, il l'a traité de tout. Il l'a traité d'oppresseur, il l'a traité de hautain dans le chapitre précédent, de voleur, d'homme dur. C'était quelque chose d'épouvantable, d'injuste, de cruel. Car vraiment, c'est à cette conclusion que ces trois sages, ces trois religieux en sont arrivés. Et ils dénoncent, pour justifier Dieu, ils dénoncent Job comme étant réellement un méchant qui subit le jugement d'un Dieu saint et juste. Alors hier soir, nous avons donc entendu ce dernier discours d'Eliphaz qui ne met plus de gants, comme nous le disions, et ne fait plus de détours pour déclarer à Job sa conviction. Alors qu'au début, Eliphaz avait été ce que j'appellerais un maître de courtoisie modérée, chapitre 4, verset 2, il a maintenant rejeté toute restriction et il plonge dans les sarcasmes, dans le sarcasme. Et il essaie de donner substance à ces accusations en allant jusqu'où? En mentant. Parce qu'il sait très bien que Job n'a pas fait ça. Et alors tout de suite, je voudrais bien vous dire que quand Eliphaz l'accuse ainsi, c'est pas dans le temps où Job se trouve dans sa maladie, n'est-ce pas? C'est, il l'accuse d'avoir été ce qu'il dit dans le temps de sa prospérité, quand il était riche, il ne donnait pas aux pauvres, et quand il était à l'aise, il refusait de s'occuper des orphelins et de la veuve. Ce n'est pas dans le moment que Job est défaillant, il est dans la peine maintenant, mais on lui reproche d'avoir fait tout cela, d'avoir été cela au temps de la prospérité. Il était dur, et c'est justement ce qu'il n'avait pas été. Donc, vous voyez qu'avec des gens religieux, on peut se trouver en face de menteurs. Et c'est cela qui est dit. Il faut que vous ayez dépouillé le mensonge, et n'employez jamais le mensonge ou l'exagération pour justifier Dieu. Parce que Dieu vous le reprochera. Vous n'aurez pas parlé de Dieu comme il convenait. Job, malgré ses moments de révolte, eh bien, il a parlé de Dieu d'une façon plus honnête. Et c'est cela. Ce que Dieu aime, c'est l'honnêteté. Et lui se souvient de quoi nous sommes formés, et il se rappelle que nous sommes poussière, que notre force, comme le disait Job, n'est pas la force des pierres, et que notre chair n'est pas des reins, et que nous avons des moments difficiles, que nous pouvons être au creux de la vague, et quand on est au creux de la vague, il ne vient pas encore peser sur nous pour nous couler. Il nous tend la main comme Jésus l'a tendu à Pierre pour le sortir de sa détresse. Et c'est cela que Job attend. Alors hier soir, comme je disais tout à l'heure, nous avons entendu ce dernier discours d'Eliphaz. Qui espère, par ses duretés, que Job sera touché et reportera ses pas dans le droit chemin. Il l'invite, comme vous l'avez vu solennellement, à faire la paix avec Dieu afin d'obtenir le salut. Alors, vous l'aurez remarqué, au fond, qu'est-ce qu'il prêche, Eliphaz ? Quel est le salut qu'il prêche ? Le salut par les autres. C'est absolument clair hein, que Eliphaz, avec toute sa religion qu'il met en avant, il lui prêche le salut par les œuvres, dans ses versets 21 à 30. Et c'est là un grand piège. Et vous savez, les réactions que l'inutilité de l'homme, que j'ai souligné peut-être un peu fortement, ces réactions qui ont été suscitées par cette inutilité hier soir, est la preuve que même sauvés par grâce et par la foi, nous sommes encore naturellement très centrés sur nous-mêmes. Et alors, le danger, c'est qu'on puisse penser que notre piété, comme la piété de Job, serait intéressée. C'est au fond l'accusation de Satan portée contre Job devant Dieu. Quand Dieu lui dit, est-ce que tu as considéré mon serviteur Job ? Oui, ce n'est pas pour rien qu'il te craint. Il a un bénéfice à être ce qu'il est et à faire ce qu'il fait. Il sait très bien que ce n'est pas inutile, que sa piété n'est pas inutile. Il sait qu'il y gagne pour lui. Mais mes amis, ce que vous devez comprendre, c'est que dans tout ce que dit Eliphaz, ce sont au fond des demi-vérités. Et c'est cela que je n'ai pas trop voulu souligner hier, pour que vous ayez cette réaction. C'était une demi-vérité qu'il disait. C'est évident que Dieu, quand vous pensez à lui, Dieu est Dieu, bien ne le mesurez pas à votre échelle. On adore Dieu. Si on pouvait expliquer Dieu, on serait plus grand que Dieu. Dieu ne se laisse pas disséquer dans un cabinet d'études. Croyez-le bien, Dieu est au-dessus de tout et on l'adore. Il n'a besoin de personne. Si vous considérez Dieu comme Dieu, Dieu n'a pas de besoin. Il est Dieu, il a tout. Et il y a tout dans le tout. Quant à Dieu, si vous le regardez comme cela. Mais d'un autre côté, Dieu, dans son amour, a créé les hommes et il les a créés pour lui. De sorte que, si on pouvait parler d'un besoin de Dieu, c'est un besoin d'amour. Et il n'est pas insensible à ce que les hommes sont et à ce que les hommes font. Donc on ne peut pas conclure qu'il ne s'intéresse pas à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, et il y a un pas là que nous ne devons pas franchir. Bien sûr, je le répète, Dieu est tout et possède tout. Mais Dieu aime et n'est pas là, le Dieu des musulmans sans sentiment. Il est sensible. Quand les pécheurs se convertissent, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? De la joie dans le cœur de Dieu et des anges. Mais quand les pécheurs font le mal, qu'est-ce qui se passe pour Dieu ? Il dit, tu leur diras que mes yeux pleurent, parce qu'il sait que le châtiment va venir. C'est Jérémie, chapitre 13. Tu leur diras que mes yeux pleurent nuit et jour à cause de leur endurcissement. Donc Dieu réagit à ce que nous sommes. Si vous écoutez, si vous marchez dans le bon chemin, vous réjouissez le cœur de Dieu. Il est sensible à ce que vous faites. Mais si vous marchez loin de lui, eh bien, il est dans l'affliction. De sorte que, vous le voyez bien, Eliphaz, avec ses demi-vérités, bien, il s'est rangé, sans le savoir, du côté de Satan dans le prologue. Et je voudrais que vous fassiez une étude, vous repreniez le chapitre premier et vous voyez comment Dieu parle de Job au chapitre premier. Puis maintenant, dans la deuxième partie, comment Eliphaz parle de Job dans ce chapitre 22. Comment Dieu parle de Job, puis maintenant comment un homme qui s'appelle Eliphaz parle de Job. Il n'y a aucun accord, n'est-ce pas, entre les pensées de Dieu concernant Job et les pensées d'Eliphaz concernant ce serviteur de Dieu. Il le décrit, il le met plus bas que tout. Alors j'ai insisté hier soir sur le fait qu'au fond Eliphaz avait en partie raison en disant que Dieu n'avait pas besoin de nous. Mais, je le souligne ce matin, c'est son amour qui a besoin de nous. Mais, de notre côté, alors, faisons attention, ne nous croyons pas indispensables. Et ne nous croyons pas irremplaçables. Parce que le danger pour un serviteur de Dieu, c'est de se croire l'auteur de quelque bien pour Dieu. Et, je l'ai déjà dit, Jésus ne s'attribuait rien à lui-même. Il donnait toute gloire à son Père. Parce que quand un homme se croit irremplaçable, ou que ses frères pensent que sans lui tout serait perdu, eh bien c'est une catastrophe. Et je vous ai dit que Dieu pouvait intervenir alors de trois manières. Ou en le faisant disparaître, comme Élie, au temps d'Akab, au torrent du Kérit. Hein, l'homme indispensable est mis de côté, on se demande pourquoi, pendant 3 années et demie, Élie ne fonctionne plus. Il avait un grand ministère, on dépendait beaucoup d'Élie dans le royaume du Nord, et tout à coup, voilà un homme qui a de la puissance, qui peut arrêter la pluie du ciel, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Alors il faut trouver Élie, mais on ne le trouve pas. Le Seigneur le fait disparaître. Parce que ce n'est pas Élie qui a ce pouvoir, c'est Dieu lui-même. Mais quand Élie, alors, après avoir accompli son ministère, se croit être resté seul prophète de l'Éternel, et qu'il est manifesté par Dieu lui-même, qu'il y a 7000 hommes qu'Élie ne connaît pas, avec lesquels Élie n'est pas du tout en contact, et pourtant Dieu lui dit, mais Élie, tu ne sais pas que moi je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé les genoux devant Baal, et qui n'ont pas baisé, et pourtant Élie, l'homme de Dieu, ne les connaissait pas. Il disait, je suis resté seul, moi. Eh bien, Dieu, dans son amour, l'enlève. Et il suscite à sa place qui ? Élisée. Est-ce qu'Élisée aura moins de puissance qu'Élie ? Il aura le double de la puissance d'Élie. Et au lieu que ce soit des miracles de jugement, que fera Élisée ? Les miracles de la grâce. C'est ça qui est merveilleux. À part l'histoire des enfants. On a raconté ici une fois. Si vous ne savez pas élever vos enfants, faites attention. Hein. Si les ours s'en mêlent, hein, ils les déchireront. Il vaudrait mieux que ce soit les parents qui s'en mêlent, de leur donner la correction. Parce que si c'est les ours qui doivent s'en mêler parce que vos enfants sont mal élevés, eh bien, ils risquent d'être un peu déchirés. Parents, élevez vos enfants. Et n'attendez pas que les ours doivent intervenir. Tout dans l'Écriture est saint. Il n'y a pas de tabou. L'Écriture nous parle de tout, mais tout est sacré. Donc, ne nous croyons pas indispensables comme Élie. Eh bien, le Seigneur l'enlève, il suscite un autre, Élisée. Maintenant, quand Moïse est mort, Moïse, mon serviteur, est mort. Est-ce que c'est fini maintenant ? Il n'y en avait pas un comme Moïse. Eh bien, Dieu suscite à sa place Josué. Puis qu'est-ce qu'il dit ? Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. C'est ça que nous devons comprendre. Dieu ne change pas. Et s'il employait des hommes, c'est une grâce. C'est une grâce. Et il a pu les employer dans la mesure où ces hommes avaient renoncé à vouloir le servir. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un courant tout à fait contraire. Préparez-vous pour le service du Seigneur, même si vous n'avez pas reçu d'appel, vous le recevrez après, et puis on fait du ministère un job. Que de gens qui sont sortis des écoles bibliques nous demandent si on a du travail pour eux. C'est pas moi qui engage les serviteurs. N'est pas, et puis ils nous demandent déjà quel salaire on pourrait leur donner. Moi je suis pas patron. J'ai un patron. Et c'est mon Dieu. Et alors, on a faussé beaucoup de jeunes, et on les jette dans une espèce de désespérance, mais parce qu'ils ont un titre, parce qu'ils ont un diplôme, maintenant il n'y a plus que ça qui compte. Mais s'il n'y a pas l'appel, eh bien, mes amis, il faudra prendre l'appel. Je m'excuse. Mais c'est vrai. Et vous vous ferez peut-être quelques... Comment ça s'appelle? Des quelques ampoules. Mais c'est bon pour les serviteurs de Dieu de se faire quelques ampoules. N'est-ce pas? Ça nous apprend à vivre. Puis alors voilà, avant, tant que vous aviez votre métier, et puis que vous étiez dans votre métier, vous aviez un témoignage. Ça fait du temps de foi. Il y avait des jeunes qui avaient un témoignage magnifique, ils avaient leur paroissien autour d'eux. C'était leurs camarades. Et ils rendaient témoignage. Maintenant, ils ont passé par une école biblique. Et alors, eh bien, ils veulent une chaire, et puis que les paroissiens viennent. Et alors, ils ne viennent pas. Alors, dans l'histoire des prêtres ouvriers en France, ça avait été compris, ça. C'est le prêtre qui doit se faire ouvrier. Mais évidemment, ça a foiré dans la politique. Mais il y avait quelque chose de juste dans ce besoin que le prêtre, au lieu d'attendre que les âmes viennent dans son église, a lui-même travaillé dans l'usine. C'est cela. Alors, il était en contact avec les âmes. Il n'avait pas besoin de chercher ou d'attendre des paroissiens. Quelques vieilles dames pour se moucher pendant la messe, assez bruyamment. Oui, mais Jacques Brel avait vu tout cela. C'est vrai. Ils sont pas fous. Ils nous regardent. Puis les bonnes œuvres, hein, couleur cacadois, et bien sûr, on travaille pour le Seigneur. On est utile. Je suis le bras droit du curé. Je suis le bras droit du pasteur. Sans moi, l'église ne tournerait pas. Quelle misère. Hein? Si tu sers le Seigneur, mais c'est une grâce. Puis alors maintenant qu'on pense au jeûne, comme si le jeûne pouvait faire quelque chose. Si tu jeûnes, bien, c'est pour toi. Tu n'auras pas une bedaine. Mais alors tu en as tout le profit. Mais non, mais tu penses, parce que j'ai jeûné, Seigneur, tu me dois quelque chose. Mais vous n'avez pas lu que Dieu ne vous doit rien. Mais nous, on retombe dans ce principe des œuvres. Je jeûne, moi. Je passe des nuits de prière, moi. N'est-ce pas? On est grimaçants, on ne se lave même plus, on ne se rase pas. C'est misérable. Mais qu'est-ce que ça peut faire à Dieu, ça? Parce que Dieu voudrait qu'on soit propre. Il ne voudrait pas qu'on soit pur. Et bien souvent, quand on veut faire tellement de choses pour le Seigneur, on se néglige, et vous ne devez pas être négligé. Le Seigneur nous dit, lave-toi, si tu as jeûné, qu'on ne le voit pas. Hein? Lave ton visage, parfume-toi. Eh oui, parfume-toi. Pourquoi est-ce que faudrait qu'on ait l'OC tout le temps? Vous savez ce que c'est l'OC? L'odeur corporelle. J'ai appris cela par une stewardesse dans un avion une fois. On faisait un long trajet, puis elle passait là avec son truc. Puis elle disait, oh, vous comprenez, c'est l'OC. Il y avait quelques personnes qui sentaient mauvais, et alors qui empoisonnaient l'atmosphère. Je l'ai dit à l'autre temps, quelquefois, quand je dois aller en autobus et que j'ai 2 ou 3 heures à côté, j'ai quelqu'un à côté de moi, eh bien, je demande toujours, Seigneur, permets qu'il se soit lavé ou qu'elle se soit lavée. Mais si c'est le vendredi et que les gens ne se douchent qu'une fois par semaine. L'autre est là. Vous voyez qu'on peut même faire une étude biblique et rire, hein? Oui, parce que, comme on l'a dit souvent, ceux qui n'ont pas d'humour, ils n'iront pas au ciel. On ne pense pas. C'est vraiment sérieux. Ceux qui n'ont pas d'humour, ils n'iront pas au ciel, parce que Dieu, il a de l'humour. Il est dit qu'il se rira d'eux. Hein? Alors, faisons attention. Sachons aussi rire. Mais on vous dirait que je suis un hérétique, parce qu'on nous dit quelquefois, on n'a jamais vu le Seigneur sourire. Il n'est jamais dit que Dieu a souri dans l'Écriture, que Jésus a souri dans l'Écriture. Il est dit, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. C'est vrai, oui, il a pleuré. Mais il n'a jamais souri. Il prenait les petits enfants comme ça. Non, mais quand il accueillait les petits enfants, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez point, vous croyez qu'il leur faisait une figure épouvantable? Hein? Il devait avoir le sourire, les enfants n'auraient pas été à lui. Et il les bénissait. Il n'y a pas besoin qu'il soit écrit. Moi, je ne suis pas un littéraliste dans ce sens-là, n'est-ce pas? Qu'il soit écrit que Jésus leur souriait, mais je sais qu'il ne pouvait pas les accueillir sans le sourire. Le sourire de Dieu. Le sourire du Père Céleste. Ah, mes amis, comme nous avons besoin de tout réapprendre, de tout relire, d'être à l'école de Jésus. Et alors, on pourrait citer d'autres cas que celui d'Élie et de Moïse. D'Élie qui est remplacé par Élisée, de Moïse qui est remplacé par Josué, qui lui fera entrer le peuple dans le pays de Canaan. Mais Jean-Baptiste, lui, il avait bien compris cela. Quand il dit, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Et quand on vient lui dire, tu sais, ce Jésus qui baptisait là, que toi tu as baptisé, il fait plus de disciples que toi. Et tous vont après lui. C'était ses disciples qui étaient jaloux pour Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste leur dit? Qu'il est dans la joie de savoir cela. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il n'est pas venu pour s'attacher les gens à lui-même. Il est venu pour que préparer le chemin du Seigneur, et lui doit disparaître, et il le dit tellement d'une façon vraie, qu'en effet, il a diminué d'une tête. C'est vrai. Mais vous savez, ce qu'on dit, Dieu nous prend en mort, il faut que lui croise et que moi je diminue. Et on lui a coupé la tête. Et ça, c'est dans le programme. Alors, il faut aussi l'accepter. C'était une grâce d'être choisi, n'est-ce pas? Mais il est quand même aussi le plus petit. Il est le plus grand, si vous voulez, des prophètes, mais il est aussi le plus petit dans le royaume de Dieu. Il y a toujours grandeur et petitesse qui restent dans la même personne. Maintenant, au jour d'Étienne. Eh bien, ce dernier, Étienne, si vous lisez les actes, il semblait être absolument indispensable à l'assemblée de Jérusalem. Il était un des espoirs de l'Église primitive. Personne ne pouvait lui résister. Mais il nous faut conserver notre Étienne. Étienne, nous en avons absolument besoin. Il a des contacts. Il n'y a que lui qui a ces contacts-là. Et il n'y a que lui qui met en boîte tout le monde. Alors on est content de l'avoir. Et puis pourtant, c'est lui qui sera repris. Et Dieu n'interviendra pas. Mais qu'est-ce qui se prépare? Celui qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, il reçoit les premières flèches dans son cœur. Il t'est dur, Saul, de résister aux aiguillons. Et puis, c'est ce Saul de Tarse qui est arrêté sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et voilà comment la semence à lever dans le cœur de Paul. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Nous aurions agi tout autrement. Maintenant, prenez un autre, Philippe. Il a un succès extraordinaire en Samarie. Alors, on peut dire, mais Philippe, ta place est en Samarie. Nous sommes assurés par le Saint-Esprit que tu es indispensable à la continuation de l'œuvre en Samarie. On a toujours ces conseils-là. Puis l'Esprit dit à Philippe, va sur le chemin de Jérusalem à Gaza, qui est désert. Seigneur, tu n'y comprends rien. Tu vois pas ce qui se passe. C'est mon job, c'est vraiment mon travail. Et j'ai été béni. Je ne dois pas abandonner ces enfants. spirituel, je me dois à eux, va sur le chemin de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Mais il y a un homme, il y a une âme. Quand on pense qu'il y a des prédicateurs maintenant qui refusent de venir à tel endroit parce qu'ils vous disent, si vous ne pouvez pas m'assurer un auditoire de tant de personnes, je ne viens pas. C'est quelque chose de terrible. Et puis même, il faut le cacher à l'avance. Évidemment, vous pouvez faire comme cela. Moi, je ne veux juger personne. Mais faisons attention. Qu'est-ce qu'il y a de biblique dans nos vies, dans notre comportement? Que le monde fasse là, pour les concerts, que les gens du monde, des vedettes, tout ce que vous voulez, ça c'est le monde, et nous pouvons le comprendre, et nous ne jugeons pas le monde d'agir ainsi, il ne connaît pas le Seigneur. Mais quand nous, nous voulons faire comme le monde, imiter le monde, hein, bien nous sommes tout à fait à côté de la vérité. Non, on ne se met pas soi-même au service du Seigneur, parce que l'on a des titres ou une préparation théologique, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, nous a appelés. Et j'aime tellement Amos. Lisez dans le chapitre 7 d'Amos, quand le sacrificateur Amathia lui dit, quand est-ce que tu auras fini avec tes visions, etc., de prêcher? Et Amos lui répond, mais je ne suis pas prophète, je ne suis pas fils de prophète, je n'ai aucun titre, je suis bouvier et je travaillais derrière les bœufs. Voilà ce que je suis. Mais Dieu m'a appelé. Et voilà le bouvier qui est au service du Seigneur et qui est dans la main de Dieu pour proclamer sa parole. Puis on a dit qu'il y avait une troisième manière d'arrêter de le laisser faire une chute. Parce qu'on est en train de donner la gloire à un homme, et Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Et voilà, si je tombe dans l'orgueil, eh bien qu'est-ce qui va m'arriver? Le Seigneur va montrer que je suis un homme comme les autres. Et c'est un peu ce qui est arrivé aux télé-évangélistes, hein. Ils ont tellement montré leur belle figure que leur pantalon est tombé. Tout le monde a vu. Oui, mais c'est ça. Ce sont des hommes comme les autres. C'est ça. Alors on est scandalisé. C'est pas des surhommes. Et alors, regardez, ça est arrivé à David, ça. Et David, le roi selon le cœur de l'Éternel, et bien voilà, tout à coup l'orgueil est monté dans son cœur. Il a voulu savoir sur combien d'âmes il régnait, comme un serviteur qui veut savoir combien d'âmes il a sauvées. On n'a sauvé personne, parce qu'alors ils seraient mal sauvés. Et ils sont tellement mal sauvés qu'on dit qu'ils ont perdu leur salut. Mais parce que leur salut ne venait pas de Dieu, mais de l'homme, du prédicateur, de sa persuasion, de sa manière d'agir, de sa manière de faire. Alors ça a tenu le temps que ça a voulu. Mais mes amis, quand c'est Dieu qui sauve, c'est de la vie de son Fils qu'il est question. Alors comprenez bien cela. Vous ne pouvez pas être sauvé à moitié quand Jésus a payé de sa vie le rachat d'une âme précieuse aux yeux du Seigneur. Et le rachat d'une âme, hein, oui. Mais personne ne peut racheter son frère. C'est le Seigneur qui nous a rachetés. Alors, il est dit, et si vous lisez 1 Chronique 21, que Satan se dressa contre Israël et qu'il incita David à faire un recensement. Satan, le même Satan qui a calomnié Job, eh bien maintenant, il est employé pour humilier David. Et vous connaissez toute cette histoire. Nous vous la citons simplement pour vous montrer l'ensemble de l'Écriture. Et il y aurait bien d'autres choses à voir dans ce chapitre que nous avons parcouru hier soir, un peu rapidement. Je veux vous signaler, pour que vous ne pensiez pas, ben voilà, le chapitre 22, on l'a vu assez à fond. Non, on n'a fait qu'effleurer ce chapitre. Et je vous dirai, relisez-le, et vous verrez qu'après l'inutilité de l'homme, qui a été soulignée dans les versets 2 à 5, on a passé à l'immoralité du patriarche, selon Eliphaz. Et alors on a vu l'idéal, au fond, de la moralité qui caractérisait les semi-nomades du croissant fertile au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Eh bien, leur moralité, il ne fallait pas commettre d'injustice. Eh bien, Job aurait commis des injustices. Et il fallait s'occuper des malheureux. Et Job, eh bien, il aurait été avec les riches, avec les plus forts. Il se serait emparé des biens de la terre s'était favorisé lui-même, il s'était fait un grand domaine, quitte à ce que d'autres n'aient pas de possession. Et alors, voilà ce dont on l'accuse, et qui était très mal vu au temps déjà des patriarches. Et là, nous apprenons justement quelle était cette morale des patriarches. Puis, dans la strophe versets 11 à 14, Eliphaz sait bien, au fond, que Job est d'accord avec lui-même sur le Seigneur. Et sur la transcendance divine, il sait très bien, au fond de son cœur, que Job pense comme lui. Mais il insinue que l'aveuglement de Job, eh bien, le conduit à projeter un aveuglement semblable sur le Très-Haut. Comme Job ne voit pas, eh bien, Eliphaz insinue qu'il dit que Dieu ne voit pas. Et c'est vrai que Job a dit cela. Mais pourtant, Eliphaz sait très bien que c'est pas cela le problème de Job. Voyez au verset 11, il dit, « Ne vois-tu donc pas ces ténèbres ?» Et puis, au verset 14, il ne voit rien, comme si Dieu ne voyait rien. Et alors, nous arrivons à la quatrième strophe, qui est verset 15 à 20, que je voudrais quand même vous signaler. Et quoi ? Tu voudrais conserver l'ancienne route, ou la route antique. Qu'est-ce que c'est l'ancienne route ? Qu'on suivit des hommes injustes. Qui étaient ces hommes injustes ? C'était les contemporains de Noé, n'est-ce pas? Alors quoi? Tu voudrais conserver l'ancienne route, conserver les hommes injustes, au temps où il y avait la violence et l'injustice sur la terre, le grand mélange. Ils ont été saisis avant le temps. Qui sont ces hommes qui ont été saisis avant le temps? Tous ceux qui ont péri dans le déluge. C'est le centre de tout le livre de Job. Ils ont été saisis avant le temps. Leur fondation est un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, écarte-toi de nous. Ils se sont moqués de Noé qui les invitait à entrer dans l'arche. Mais ils se sont moqués pendant les 120 ans que Noé a construit son bateau en terre sèche. Il est fou, cet homme. Il a eu que des moqueries. Alors, que peut faire pour eux le Tout-Puissant? C'est lui pourtant qui avait rempli de bien leur maison. C'est vrai, c'était une société de consommation. On mangeait, disait Jésus, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, la vie continuait, mais dans l'injustice et la corruption. Et Jésus dit que, proche de son retour, l'époque de son retour sera une époque semblable au temps de Noé. Alors, vous voyez comme vous retrouvez dans tous ces passages, au fond, toute l'Écriture. Le conseil des méchants est bien loin de moi, les justes le verront et se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Celui qui se lève contre nous n'a-t-il pas disparu, le feu n'a-t-il pas dévoré leur profit? Et puis, quand même, tout à coup, eh bien, Job reçoit ce message, cette invitation, au fond, à la conversion. Eliphaz voudrait quand même que Job soit délivré. Alors c'est les versets 21 à 25, le nouvel appel à la conversion, et il invite Job à effectuer sa réconciliation avec Dieu, à faire la paix pour obtenir en quelque sorte le salut par les œuvres. Toute la dernière partie du discours d'Eliphaz, c'est le salut par les œuvres. Voilà où on en revient. Accorde-toi donc avec Dieu, tu auras la paix. Est-ce qu'on peut s'accorder nous-mêmes avec Dieu? C'est lui qui nous fait grâce. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Tu vois, tu auras un intérêt. Tu comprends? Et il remet Job dans sa tendance, parce qu'il a déjà cette tendance. Il se sait juste et il croit qu'il peut paraître devant Dieu avec sa propre justice. Reçois de sa bouche instruction, mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Où est la grâce là-dedans? C'est seulement si toi tu reviens que tu seras rétabli. Tu éloigneras l'iniquité de ta tente, jette ton or dans la poussière, l'or d'Ophir dans les cailloux du torrent, le Tout-Puissant fera ton or, et pour toi, des monceaux d'argent. Tu as un bénéfice de revenir au Seigneur. Et c'est cela que je voulais souligner. Alors, tu élèveras ta face, tu imploreras, et il t'exaucera, tu accompliras tes vœux, etc., etc. Nous allons nous arrêter un instant et puis prendre maintenant encore un moment, puisque nous ne faisons que la première lecture et on reprendra ce soir. Nous vous donnons un instant pour vous détendre à la simple lecture de ces chapitres. Et vous remarquez tout de suite que la réponse de Job, au fond, comme il l'a fait avant, il ne répond pas directement aux accusations d'Eliphaz. Hein. Eliphaz est accusé de tout, mais il ne répond pas. Il ne répond pas à ces accusations, mais il ouvre son cœur. Job répondit, aujourd'hui encore ma plainte est une révolte. Et voilà justement pourquoi vous devez consulter plusieurs textes. Darby, par exemple, dira, voilà pourquoi aujourd'hui encore, ma plainte est amère. Il y a quand même une nuance. Hein. Ma plainte est amère. La main qui s'appesantit sur moi est plus pesante que mon gémissement. Le français courant dit, j'ai beau vouloir étouffer mes gémissements, encore maintenant, ma plainte est la plus forte, n'est-ce pas? Tandis que d'autres, là, disent, carrément, ma plainte est une révolte. Alors, vous voyez, je dis que ce sont des textes où il faut discerner ce qui correspond le mieux à ce que nous apprenons de l'ensemble de la vie de Job. Ma main étouffe mon gémissement. C'est des fois difficile pour le traducteur de savoir. Et c'est pourquoi il y a des traducteurs qui ne sont pas même nés de nouveau. Et alors, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ben vous pouvez peut-être faire une très belle traduction, mais il faut une sensibilité aussi, la sensibilité de l'Esprit pour la traduction, parce que cela peut nous aider beaucoup, sans ça, on s'égare. Vous voyez, ce n'est pas sa main ici, c'est quand même la main de Dieu, la main qui s'appesantit sur moi. Il ne dit pas que c'est la main de Dieu, mais enfin, et c'est sous-entendu. Elle est plus pesante que mon gémissement. Et il paraît être écrasé. Ou alors, n'est-ce pas, ma main étouffe mon gémissement. Ben, ça peut être vrai aussi, à plusieurs sens. Mais alors, ce qui compte, c'est, oh, si je savais le trouver. Parce que, et il dit pas à qui, mais enfin, celui qui est à l'origine de tout cela. Si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, j'exposerai devant lui mon droit, je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai les propos par lesquels il me répondrait, et je pourrai comprendre ce qu'il me dirait. Parce que il ne comprend pas les discours de ses amis, on l'accuse, puis c'est tout. Mais ça ne lui donne pas une réponse. Emploierait-il toute sa force à me faire un procès? Au fond, ses amis, ils emploient toute leur force pour faire un procès à Job. Non, mais au moins, il ferait attention à moi. Et il a l'impression que ses amis, ils ne pensent qu'à le convaincre, mais ne font pas du tout attention à lui. Ce serait là un homme droit qui argumenterait avec lui. Lui, il est droit, et il dit, ben, je pourrais argumenter avec le Seigneur. Et je serai pour toujours absous de mon juge. Il a toujours sa conviction qu'il est innocent. Mais voilà, sa détresse, c'est qu'il passe par cette nuit obscure. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis l'apercevoir. Est-ce que vous avez connu ces moments dans votre vie? En tout cas, moi, je peux vous dire que je les ai connus. Et c'est vrai. Hein. Il y a de ces moments où le chrétien ne voit plus. Il ne voit rien devant lui. Au fond, la porte lui semble fermée. Derrière lui, pourtant, on a fait des expériences. Hein, mais... Et on en a parlé des fois de nos expériences. Mais c'est comme si on avait tout oublié. Il n'y a plus rien. C'est tout ce qui n'est pas allé qui nous revient à l'esprit. Donc, pas de souvenir heureux derrière nous. Hein. Pas de souvenir encourageant. Pas de perspective encourageante devant nous. Et puis, si je me tourne à droite, je n'éprouve pas sa présence. Et à gauche, non plus. C'est la nuit obscure. Mais qu'est-ce qu'on a lu ce matin? La nuit même n'est pas obscure pour me cacher à toi. Vous voyez le psaume 139 qui vient rejoindre ici cette expérience de Job, mais qui nous montre un autre aspect. Toi, tu ne vois pas, toi, tu ne sens pas, mais moi, je te vois. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi. Alors, quand vous avez ces moments où vous vous sentez tout à fait seul, hein, où vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, eh bien, dites-vous, c'est mon sentiment, mais ce n'est pas vrai. Qui est-ce qui vous fait croire ça, que vous êtes abandonné? C'est le menteur, c'est le meurtrier qui voudrait, dans un moment de défaillance, dans un moment surtout de fatigue, parce que, vous l'avez remarqué, c'est toujours quand on est fatigué que le diable nous attaque le plus fort. Quand on n'en peut plus, alors il vient nous donner le dernier coup de pique, parce que c'est un lâche, c'est un menteur, c'est un lâche, c'est un meurtrier. Alors, que le Seigneur nous instruise et nous montre que vous n'êtes pas seul à passer par ces moments-là. Et ne mettez pas en doute votre salut parce que vous ne sentez plus rien. La foi, ce n'est pas le sentiment. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Il vous dit que où que vous alliez, où que vous soyez, lui se trouve. Il n'a pas besoin de courir ça et là sur la terre comme Satan. Satan n'est pas partout à la fois. Il a ses démons, oui, mais il n'est pas partout à la fois. Il n'est ni omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Il ne peut pas tout, il ne sait pas tout. Et il n'est pas présent partout. Tandis que Dieu, il est partout. Et c'est ça qui nous rassure. Et je dirais que c'est dans cette nuit obscure de nos sens, de tout, que notre foi grandit le plus. On a dit que les racines du chêne poussent en temps d'orage. L'orage, la tempête, amène les racines du chêne à se plonger encore davantage dans la terre pour tenir le coup. De sorte que nos épreuves, loin de nous ébranler, elles devraient nous fortifier. Plongez, soyez enracinés et plongez. Et fondé dans l'amour. Deux choses qui paraissent impossibles. On ne peut pas être enraciné et fondé. Fondé, c'est sur le roc, puis enraciné en même temps, c'est dans la terre. Bien voilà. C'est le Dieu des impossibilités que nous connaissons. Il permet que nous soyons fondés et que nous soyons en même temps enracinés dans l'amour de Dieu. Alors, après ce mauvais moment que Job dépeint, là, et qui correspond à nos heures, à nous aussi, de découragement, où on a l'impression d'être abandonné, Job dit, mais il connaît pourtant la voie que, où je me tiens. Il ne se tient pas sur une voie de rébellion, il ne se tient pas sur la voie des pécheurs, comme il est dit au psaume premier. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je n'en sortirai pur comme de l'or. Vous voyez, au fond, la conviction profonde, c'est que il peut encore connaître la victoire. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. Je n'en ai pas dévié. C'est le sentiment qu'il a. Je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'aime bien Darby qui dit, j'ai serré dans mon cœur les paroles de ta bouche plus que les propos de mon cœur. J'ai gardé les paroles de ta bouche plus que les propos de mon cœur. Au fond, le diable, hein, il vient avec ses propos. Il te dit, oh, tu n'es rien, tu ne vaux rien, et puis il nous décourage. Hein. J'ai connu cela. Quand on passe par une certaine épreuve, Dieu, on se dit, mais pourquoi? Et puis pourquoi cela m'arrive là, dans ce moment-là, alors que j'ai des responsabilités devant un grand public, et puis voilà qu'une catastrophe humaine m'arrive. C'est pas possible, Seigneur, mais donc tu me rejettes. On a ce sentiment-là, tu me rejettes. Ça, c'est les propos de mon cœur. Tu m'abandonnes. Ou je suis tellement indigne que tu ne veux pas que je prêche pour qu'il m'arrive une chose pareille. Puis en même temps, le Seigneur te dit, je ne rejette pas pour toujours. Si j'afflige, j'ai aussi compassion. Ce n'est pas volontiers que j'afflige et que je contriste les fils des hommes. Alors vous voyez, on s'accroche aux paroles de sa bouche plus qu'aux propos de notre cœur. Et aussi, je n'ai pas altéré les commandements de tes lèvres. Tu m'avais commandé de faire telle chose. C'est pas parce qu'il m'arrive un événement brutal que je dois quitter tout et changer. Je dois rester là à mon poste. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. C'est pas les circonstances qui vont changer quelque chose. Parce que toi, tu le savais que j'aurais cette circonstance-là à ce moment précis, donc je n'ai rien à changer. Je reste fidèle à mon poste. Hein. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Mais lui, s'il prend une décision, qui pourra l'en faire revenir? Je ne peux pas lutter contre Dieu. Voyez-vous, nous nous proposons certaines choses. Mais quand vous vous proposez certaines choses, ça je l'ai aussi appris dans la vie avec le Seigneur, on se propose, mais on dit, oh Dieu, dispose. On est bien obligé de se proposer certaines choses. Mais en lui disant, autant que je vois les choses, Seigneur, je crois que je dois faire ceci et cela. Tu me le montres. Mais si j'ai oublié quelque chose, et que toi, tu veux autrement et que tu le corriges, eh bien je ne m'en vais pas me heurter contre ta volonté. Je vais tout de suite me mettre d'accord avec toi. Parce que tu disposes des choses autrement que je ne l'avais prévu. Alors, au lieu qu'il y ait ce heurt de ma volonté contre la volonté de Dieu, eh bien, je me mets d'accord avec lui. Et ce que j'ai compris, ce que le Seigneur m'a fait comprendre pour moi personnellement, c'est que mes déceptions n'étaient qu'une manifestation de ma volonté propre. Finalement, nos déceptions sont la manifestation de notre volonté propre, on n'accepte pas, on avait pensé que ça devait être comme cela, mais enfin, qui a connu la pensée du Seigneur pour être son conseiller, de lui, par lui, et pour lui sont toutes choses. Et c'est dans ces moments difficiles que vous devez croire cela. C'est pour ça que je dis que la parole doit se fixer dans votre sensibilité et ne pas rester dans le texte de l'Écriture. Ça doit s'inscrire dans vos cœurs, dans votre chair, dans vos os, dans tout votre être, dans la moelle des os. Alors, vous devez vous attendre que Dieu en concevra bien d'autres de projets. Mais Job est certain d'une chose. Lui, s'il prend une décision qui pourra l'en faire revenir, ce que lui-même désire, il l'exécute. Et voyez-vous, ce qu'il désire, c'est quelque chose de bon pour nous. La volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite, mais Oui, on le dit théoriquement. Bonne, peut-être qu'on le croit. Agréable, peut-être un peu moins. Parfaite, on le verra là-haut. Mais c'est déjà sur la terre, vous devez le croire. Il accomplira donc le décret qui me concerne, et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi je suis épouvanté en face de lui. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Parce qu'il ne le connaît pas encore intimement, parce que quand on le connaît intimement, on sait que c'est un père au cœur de mère, comme quelqu'un que sa mère console. Le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante. Et vous voyez, ce n'est pas la mort qu'il redoute, mais c'est le Tout-Puissant. La mort, il ne la redoute pas. Si c'est rentrer dans le néant, ce n'est pas ça que j'ai à redouter. Parce qu'autant ne plus souffrir, c'est une délivrance, la mort, dans un sens, pour certains. Mais après la mort, suit le jugement. Et voilà que il se défend sa cause, mais il n'est pas si sûr de lui quand même. Et alors il est dans cette école où Dieu le façonne, car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent au silence, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert, parce qu'il pourrait se dire, eh bien oui, alors après, dans l'au-delà, ben j'aurai les... je saurai, mais au fond... Il ne cherche pas cela. Il voudrait que Dieu lui réponde. Alors pourquoi des temps ne sont-ils pas mis en réserve de la part du Tout-Puissant? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On emmène l'âne des orphelins, on prend pour gage le bœuf de la veuve, on fait dévier les pauvres du chemin, on force les malheureux du pays à se cacher tous ensemble. Et voici, comme des ânes sauvages dans le désert, ils sortent à leur travail dès l'aurore. Les conditions de travail, vous pourriez méditer là-dessus. Eh bien, déjà de son temps-là, on était préoccupé par ces conditions de travail des ouvriers. Ils sortent à leur travail dès l'aurore pour avoir de la nourriture. Il n'y a que la steppe pour fournir du pain aux enfants. Dans la campagne, ils coupent le fourrage. Ils vendangent la vigne du méchant. Quand il faut travailler pour l'homme riche et qui... abusent de vos services. Ils passent la nuit tout nus, sans vêtements. Ils n'ont pas donc le nécessaire. Ils n'ont point de couverture contre le froid. C'est, au fond, tout l'ordre social qui le passe en revue. Et c'est quelque chose. Il nous parle là de l'injustice sociale et il se demande... Pourquoi cette condition des travailleurs? Pourquoi aussi la faim, le froid? Pourquoi ces 12 à 17, comme l'on verra, la prière inexaucée? Et puis, voyez verset 10, ils vont tout nus sans vêtements, et affamés, ils portent les gerbes. C'est vrai ça, hein? Il y a des gens qui ont faim et qui doivent porter des gerbes, ce qui pourrait les nourrir. Dans les enclos, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir, et pourtant ils ont soif. Vous avez une condition de cette société d'injustice que Job brosse un tableau extraordinaire. De la ville, les mourants font monter leurs plaintes. Voyez ce qu'il y a dans les grandes villes. Prenez New York, prenez même Montréal. L'âme des blessés jette des cris. Et Dieu ne fait pas attention à un tel scandale. Ben vous voyez que c'est vieux, ça. Et il semble que Dieu ne fait... On dit alors, pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? D'autres font partie de ceux qui sont rebelles à la lumière. Ils ne distinguent pas ses voies. Ils ne demeurent pas dans ses sentiers. Et puis alors là, vous avez l'assassin. L'assassin, le portrait de l'assassin, il se lève quand paraît la lumière. Il tue le malheureux et le pauvre. Et pendant la nuit, il est comme un voleur. Puis après, il parle de l'adultère. C'est toutes des choses qui se commettent aujourd'hui. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Il ne veut pas être vu. Personne ne me verra, dira-t-il. Et il met un voile sur sa figure. Pas seulement l'adultère, mais ceux qui font le hold-up. Dans les ténèbres, il force les maisons. C'est de l'actualité. 12 ans avant l'an 2000, le vieux récit de Job. Le jour où ils se tiennent enfermés. Vous connaissez ça? Il y en a qui l'ont connu avant leur conversion. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Et c'était vrai, hein, aussi pour les condamnés à mort quand marchait la guillotine. Exécutés à l'aube. Monsieur, ayez du courage, disait le procureur, puis on marchait vers la guillotine. Oui, il distingue les terreurs de l'ombre de la mort, la veuve, comme on l'appelait, la guillotine. Et quoi? Le méchant serait d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'aurait sur la terre qu'une part maudite. Il ne se dirigerait pas sur le chemin des vignes, le chemin où l'on travaille. Comme la sécheresse et la chaleur emportent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts emporterait celui qui a péché. Le sein maternel oublierait, les vers en feraient leur délice, on ne se souviendrait plus de lui, l'iniquité serait brisée comme un arbre. Il dépouillait la femme stérile et ses enfants, il ne traitait pas bien la veuve. Non. Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents. Et les voilà debout, quand ils ne croyaient plus à la vie. Hein? On les a pourchassés. La police n'a pas pu les arrêter. Ils sont encore debout, après avoir eu la grande angoisse de leur vie. Il leur donne la sécurité pour appui. Ils quittent le pays. Ils vont se réfugier dans une autre patrie. Et il a les regards sur leur voix. Ils se sont élevés en un instant. Ils ne sont plus. Ils tombent. Parce que tôt ou tard, ils doivent tomber. Ils arrivent à leur terme, comme tous les hommes. Même le parrain, il arrive à son terme. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mon propos à néant? Eh bien, nous nous arrêtons là. Et vous avez à méditer, à reprendre tout cela. Alors, pour ce soir, je vous demanderai la lecture des chapitres 25, 26, 27 et 28. C'est 71 versets. C'est le dernier discours de Bildad et la réponse de Job. Puis, nous verrons une description extraordinaire d'une mine dans le chapitre 28. Mais j'ai mis ce nombre de chapitres parce qu'il n'y a pas trop de difficultés, alors nous n'avons pas besoin de nous arrêter beaucoup, de sorte que ça ne se prolongera pas. Eh bien, que le Seigneur vous donne une journée de grâce et que Un peu plus fort, s'il vous plaît.
Oui, merci Seigneur, on prie tous ces jours-là. Afin que tu nous donnes de te considérer encore. Toi qui as subi tout ce que tu as fait. Il donne ça.
Amen.
Ah oui, Seigneur Dieu, renouvelle notre intelligence, Seigneur Dieu. Donne-nous l'intelligence de puiser nos besoins en toi, Seigneur. De notre spontanéité, Seigneur Dieu. De cette action qui nous pousse à agir selon nous-mêmes, Seigneur Dieu. De spontanéité, Seigneur Dieu, qui nous empêche de consulter en premier lieu.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Merci pour ces versets dans le livre de Job qui nous aident à comprendre ce plan merveilleux pour nous. Merci au nom de Jésus.
Amen.
Merci Seigneur de ton esprit qui est descendu. Amen.
Amen.
Merci que ta parole vienne vivre dans nos cœurs et pouvoir supporter les autres, agrandir et marcher dans la voie de l'éternité. Nous te remercions, Seigneur, de toutes choses. Gloire à ton nom. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Seigneur Dieu, fais-moi comprendre, Seigneur Dieu, c'est l'état de vivre dans l'indépendance.
Amen. Amen. Oh oui, nous voulons te bénir de prolonger cet enseignement du livre de Job dans chacune de nos vies. Nous te remercions parce que tu nous permets de vérifier que ta parole est vivante, qu'elle est permanente, qu'on peut toujours être enseigné par elle pour nos besoins actuels, pour nos besoins d'aujourd'hui. Et nous voulons te demander que tu nous en convainques tellement que nous ne soyons pas de ceux qui doutent que d'apporter ta parole, c'est apporter le message du jour. Que le message du jour n'a pas à être fabriqué à la mode du monde, mais que dans ta parole, l'essence même de ta parole, c'est le message du jour. C'est là que sont les dernières nouvelles, aussi bien au sujet de la situation sociale que de la situation morale du monde. Tout est là, dans ta parole. Et si le ciel et la terre passe, tes paroles ne passent point. Nous te remercions de nous le faire découvrir comme tout à nouveau. Et nous voulons, comme disait le psalmiste, serrer la parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. car nous devons être de ceux qui sont éclairés par elle. Nous savons que tu veux nous faire marcher dans la sécurité de ton âme. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.